Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver comme chaque week-end pour un nouveau numéro du meilleur de Sud Radio. On va passer cette prochaine heure ensemble et réécouter des extraits de tous les temps forts de cette semaine. Et on commence avec le Loft Music. Mardi, Ivan Cugius recevait le chanteur italien San Severino. Et à peine rentré de sa tournée Montreuil-Memphis, ce grand fan de cyclisme a fait un parallèle entre sa passion et le tango dans son nouvel album. On l'écoute.
Le meilleur de Sud Radio.
Je sens bien que tu vas pas revenir si je te raconte nos vieux souvenirs. Je me rappelle de l'odeur de ta peau dans la gare de Saint-Malo. Tu sentais le soleil et le sel, les galettes du Mont-Saint-Michel. Et moi, la transpiration, la faute à ma chemise en nylon. Qu'est-ce qu'on peut pleurer dans les gares? Qu'est-ce que c'est mauvais pour les yeux? Qu'est-ce qu'on peut flinguer comme mouchoir dans une gare quand on se dit adieu? Qu'est-ce qu'on peut pleurer dans les gares? Qu'est-ce que c'est mauvais pour les yeux? Qu'est-ce qu'on peut flinguer comme mouchoir dans une gare quand on se dit adieu?
Les gars, extrait du nouvel album de San Severino et Tango Motan. Album sorti le 20 septembre 2019. Salut San Severino.
Oui, salut Yvan, ça va?
Ouais, ça va bien. Ouais, content pareil. De t'avoir.
Merci,
et toi, comment tu vas alors?
Bon, écoute, ça se passe bien. Écoute, on est dans notre maison et puis voilà, on attend. C'est sûr. Je commence même presque à en avoir marre d'en parler tellement on attend la fin. Écoute, je travaille à la maison, je vais bien. J'ai été malade tout de suite, moi, en janvier. C'est dès que je me suis débarrassé du truc direct. Voilà. Et ouais. Avant même que ça n'existe, comme quoi c'était vraiment de la connerie, le coup du bateau. Là. Je suis donc immunisé encore pour quelques temps. Voilà ce que j'ai à dire.
Mais c'est clair. À mon avis, Stéphane San Severino, tu travailles forcément à la guitare, en tout cas t'en joues tous les jours, mais tu dois faire aussi du vélo, tu dois faire des tours de roue, tu dois rouler. Et même, oui. Alors non, parce qu'on n'a pas le droit, pardon, t'as pas le droit, il fallait faire 1 kilomètre autour de soi.
Oui, mais j'ai un espèce de parc à côté de chez moi, qui est à moins d'un kilomètre, dans lequel je peux faire 40 kilomètres si je veux, en faisant plusieurs tours. C'est du DTT, quoi. Faut aimer rouler dans la bouillasse en ce moment. Mais écoute, je le fais des fois, puis je fais du home trainer. Et puis, des fois, je dépasse le 1 km, je vais jusqu'à 1,5 km.
Oui, tu m'étonnes,
mais ne le dis à personne.
Ah non, je le répéterai, ça ne sortira pas de Sud Radio, t'inquiète pas. Mais je sais que, évidemment, puis on le sait, tu es un grand fan de vélo, et ce même vélo que l'on retrouve, en tout cas cette ambiance cyclisme qu'on retrouve dans quelques-uns de tes titres, et notamment dans ce dernier album dont on va parler, évidemment.
Oui, exact.
Alors, quelle est la forme qu'on entend sur le facteur pirate, parce que le mec, c'est un poète qui pédale, et puis sur le pistard inculpé aussi, cette histoire tragique, comme l'est le cyclisme, qui est quand même un enchaînement de mélodrames et de joie, quoi, comme le tango.
Oui. Je crois que c'est Shakespeare qui a inventé le cyclisme. C'est drame sur drame, quoi. Ils sont un peu en répit en ce moment. Là, on n'en parle pas trop. Enfin, moi, je connais pas d'histoire là, truculente et très intéressante. Enfin, à part les résultats, parce que là, c'est un peu la fin de la saison. Mais c'est un truc de drame.
Ça se rapproche de ce point de vue-là, finalement, assez bien de ce tango qui est une alliance comme ça de mélancolie, de choses assez, assez nostalgiques et puis aussi joyeuses, comme dans le vélo, il y a ces deux, et comme dans la vie générale, tu me diras. Mais
oui,
là, en tout cas,
il fallait
oser rapprocher le cyclisme du tango, mais ça le fait merveilleusement bien.
Ouais.
Comment c'est venu ce rapprochement au tango, en tout cas, San Severino?
Avec le tango, il n'y a pas 50 solutions. C'est soit tu fais un truc rigolo, genre le tango corse, tu sais, célèbre truc, qui commence à dater maintenant, parce que c'était, j'ai l'impression, en 40 ou en 50, ça, le tango corse. Soit tu fonces dedans, c'est-à-dire dans le drame, il n'y a pas de demi-mesure. Donc moi, le côté humoristique, je l'avais laissé de côté pour l'instant, et j'ai foncé dans des histoires cette histoire de Pistard inculpé, qui est l'histoire pour les gens qui n'ont pas l'album, et il y en a beaucoup de gens qui n'ont pas l'album, tellement il s'est vendu un peu d'exemplaires. c'est des c'est un pistard qui a pas beaucoup de résultats. Un pistard, c'est un coureur qui court sur des vélodromes, d'accord. C'est, on l'appelle pistard parce qu'il court sur piste. Alors il court sur un vélodrome et puis il trouve ses résultats pas terribles. Alors il va voir un docteur à qui il demande un programme de, enfin, espèce de programme de dopage, hein, disons le mot.
Et puis
le truc marche pas. Je sais pas pourquoi ça marche pas du tout. Du coup il retrouve le docteur et il l'assassine.
Il le flingue.
Voilà. Il lui met des grands coups de pelle dans la gueule et il le tue. Donc ambiance serial killer un peu.
Oui, et puis qu'on retrouve aussi. Ouais, ouais. Mais y a, dans d'autres chansons, ouais, dans le film d'horreur,
des fois dans
l'outrage, quoi, aussi. Hein.
Oui. Ah, bah oui, il y a beaucoup de morts. C'était bien avant que nous arrive le drame mondial qu'on connaît, là, avec tous ces gens qui meurent et tout. Donc, évidemment, j'avais pas prévu ça. Sinon, j'aurais fait un peu moins. Mais maintenant, c'est fait, quoi. Et alors, il y a pas mal de drames. Il y a des mecs qui crèvent. Il y a une histoire de Dracula. C'est un peu orienté sur l'idée qu'on se fait de la mort, parce qu'en fin de compte, personne ne sait ce que c'est, vu que personne n'y a été, ou en tout cas nous en parle.
Voilà. Et je me rappelle qu'on en avait parlé, et c'est quelque chose, c'est une pensée qui revient régulièrement dans ta tête et qui est très présente finalement.
Oui,
elle n'est pas traitée directement, mais quand même.
Ouais, c'est un peu un faux joyeux, j'y pense. Bon, il y a des jours où j'y pense pas. Je peux pas dire que j'y pense à ça tous les jours, mais à la fois, au moins, je suis au courant que ça va arriver. Quoi. On peut pas dire la date, quoi. Tu vois, c'est un peu comme la sortie d'un prochain album, tu peux pas dire la date, là.
ou la reprise de la tournée.
C'est exactement ça. Tu vois que tout a rapport avec la mort, Yvan.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et pour retrouver Yvan Cujus et ses invités, rendez-vous de 20h à 21h en direct dans le Loft Music. Ne bougez pas, on va revenir dans un instant avec Philippe Rossi et toute l'équipe des Vraies Voix qui ont débattu sur le service citoyen obligatoire. Et avec les invités de la matinale de Patrick Roger et de Cécile de Minibus qui ont fait le bilan de la Chine après le traumatisme de l'épidémie du Covid. Restez sur Sud Radio.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans le meilleur de Sud Radio. Comme tous les week-ends, je vous propose qu'on écoute ou réécoute ensemble des extraits des émissions marquantes de cette semaine, comme mercredi dans Les Vraies Voix. Alors, dans leur grand débat, Philippe Rossier et ses chroniqueurs, ainsi que leur invité Michel Larive, député France Insoumise de l'Ariège, ont débattu sur le service citoyen obligatoire rémunéré, pour lequel Jean-Luc Mélenchon est favorable. Une proposition qui divise déjà sur les réseaux sociaux. Écoutez.
La République, c'est moi!
À vos ordres, mon général!
Combien tu mesures, deuxième pompe?
Chef, 1m75, chef!
1m75, jamais vu un tas de merde aussi haut que ça!
Vous avez une autre question de ce niveau-là?
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Poussez-vous là, ouvrez-moi cette porte!
Chef, oui, chef!
Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert.
Et voilà, on est en débat avec Michel Larive, député France Insoumise de l'Ariège. Bonsoir, Michel Larive.
Bonsoir, monsieur.
Bonsoir à vous, Michel Larive. Donc, Jean-Luc Mélenchon favorable à ce service citoyen obligatoire. Jean-Luc Mélenchon, lors d'une interview à l'Opinion, qui a déclaré « Certains élus de la députée de la France Insoumise ne seront sûrement pas d'accord avec moi ». Est-ce que vous en faites partie de ces élus qui sont opposés à Jean-Luc Mélenchon sur ce service militaire obligatoire, service citoyen ?
Alors, monsieur, il faut vraiment préciser les choses. C'est un service citoyen obligatoire.
Citoyen.
Et il peut y avoir effectivement une option militaire. Ce n'est pas du tout pareil.
Ah oui.
Je vais vous donner. Je crois qu'il faut. Déjà, on va commencer par là. On va commencer par là, par détailler le dispositif. L'âge, entre 18 et 25 ans. Le lieu le plus proche possible de son domicile de vie. La durée, 9 mois. Le déploiement, effectivement, sur tout le territoire national, avec quelque chose de plus soutenu dans les Outre-mer et dans la ruralité et les quartiers populaires. Le contenu, effectivement, il y aurait sûrement une formation militaire initiale, mais avec le droit, comme à mon époque, moi j'ai fait le service militaire, je n'ai pas pu être objecteur de conscience, et donc j'ai fait mon service militaire, mais avec le droit à l'objection de conscience aussi, bien entendu, c'est un droit que nous reconnaissons. Et derrière, s'il y a la poursuite du cursus de 9 mois dans une enceinte militaire, pourquoi pas, ça peut être aussi, on vous l'a dit, du côté de la police, puisque de mon temps, il y avait aussi un service militaire dans la gendarmerie, mais sinon, la principale Le principal axe, ce sont les tâches d'intérêt général, le secours à la personne, en cas de crise sanitaire notamment, et nous, que nous connaissons, la sécurité publique, les sapeurs-pompiers, la défense, la sécurité civile, la protection, la réparation de l'environnement, l'appui à des associations, la solidarité, vous venez d'en parler. Voilà, donc l'humanitaire. Et puis, avec, si vous voulez, en gros, l'idée, c'est de rétablir le lien avec, pas de rétablir parce qu'il l'est, mais enfin de renforcer tout du moins le lien avec la jeunesse et la République en donnant quelque part un impôt de temps à la patrie. Voilà, donc il n'y a pas, ça n'est pas un service militaire obligatoire, loin de là, c'est un service citoyen, mais les gens pourront choisir effectivement de le faire dans l'armée. En fait, c'est un choix, c'est un impôt de temps qu'on donne à la patrie. Comme on le donnait obligatoirement à l'armée à l'époque, à mon époque, comme je vous l'ai dit, moi j'ai fait 12 mois, et puis là, non, on le donnera dans tout autre, on peut le donner à l'armée, mais on peut le donner aussi dans toute autre association. Alors vous savez, c'est souvent, oui, quelque part, alors c'est au SMIC aussi, je ne l'ai pas dit, c'est quand même très important, oui, c'est que la rémunération, elle est au SMIC, au minimum au SMIC. Souvent, c'est une alternative bien plus raisonnable à certains stages pour certains jeunes. Et je pense qu'ils choisiront peut-être cette alternative-là que de faire des stages
non rémunérés. Oui. Stages, oui. Voilà, non alors, rémunérés. De moins qui se renouvellent, on connaît. Et oui. Et oui, Michel Larive. Voilà. Alors, merci pour vos explications. C'est vrai que moi, merci, j'ai lu un petit peu partout et j'ai lu beaucoup, vu et entendu voilà, beaucoup de débats ce matin. Axé sur le service militaire obligatoire, non, on le répète, c'est un service citoyen obligatoire payé en échange d'un don de temps. Est-ce que vous êtes séduit, les vraies voix, par cette proposition, Philippe Bilger, pour commencer?
Mais, monsieur le député, quand on écoute cette proposition, à partir d'une analyse très rapide, on ne peut que la trouver pertinente. Et puis-je vous demander, alors à partir de cette évidence, quelles sont les oppositions qui pourraient se manifester à l'égard d'une initiative qui me paraît tout de même empli de bon sens, surtout aujourd'hui où il faut combler un gouffre finalement entre la jeunesse et, j'allais dire, la France officielle.
Bien, écoutez, c'est une très bonne question. Je pensais que vous auriez peut-être sûrement la réponse à ces oppositions. Moi, je vais, vous comprenez bien que je fais une proposition. Enfin, nous faisons une proposition et nous n'allons pas aller chercher tout de suite les oppositions si jamais les gens peuvent nous aider à l'améliorer. C'est l'attitude que nous tenons depuis le début, depuis la construction de l'avenir en commun. C'est-à-dire que l'avenir en commun est un programme, une plateforme programmative qui est évolutive suivant les contributions de toutes les citoyennes et les citoyens. Moi, je vais pas aller chercher le bâton quelque part, si vous voulez bien, monsieur, pour me faire battre. Nous faisons une proposition. Si vous le dites, si vous dites qu'elle serait acceptée par le plus grand nombre, j'en suis absolument ravi.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et rendez-vous dès lundi de 17h à 19h avec Philippe Rossi et toute l'équipe des Vraies Voix. On continue avec un extrait de la matinale de lundi. Dans le petit déjeuner de l'actu, Patrick Roger et Cécile de Minibus recevaient Guillaume Zaguri, médecin et spécialiste en santé publique internationale à Shanghai. Et ensemble, ils se sont demandé comment se porte la Chine après le traumatisme du Covid. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio.
On va peut-être commencer par vous, Guillaume Zaguri, parce que vous êtes là-bas, en Asie. Où en est-on précisément d'ailleurs? Parce que est-ce qu'on peut donner en fait un bilan et des chiffres? Moi, je parlais tout à l'heure dans l'introduction, depuis le début d'année, on dit qu'il y a 90 000 cas et 400 000 décès recensés en Chine. Et qu'aujourd'hui, on gère en fait cette crise en fait sanitaire un petit peu mieux visiblement qu'en Europe qu'en Occident.
Oui, bonjour Patrick et bonjour Cécile.
Bonjour.
Oui, effectivement, on en est où en Chine actuellement? Je dirais trois points. Un, c'est un pays Covid-free puisque depuis plus de 8 mois, on a moins de 50 cas à peu près par jour.
Combien?
Moins de 50 cas.
Ouais.
Bon, à peu près, hein, c'est l'ordre de grandeur, par jour, et essentiellement des cas importés. Importés d'où? Importés de Russie, d'Europe, et parfois des Philippines, par exemple.
Ouais.
Ce qui explique pourquoi il y a une politique draconienne au niveau des venues en Chine, des aéroports, avec la politique des 3 et, versus la politique des 3 ou en Europe. Un test positif PCR 3 jours avant, à l'arrivée, un test PCR plus un test sanguin et 15 jours de quarantaine stricte. C'est les 3 et. Vous voyez, donc c'est une différente approche qui explique certains. On pourra en développer ça un peu tout à l'heure.
Oui, oui.
Mais juste d'entrée, on voit déjà la différence. Donc ça, c'est pour l'aspect sanitaire. Et pour l'aspect économique, je dirais que l'économie, ce que je vois à Shanghai en tout cas, est revenue à 80-90%. De ce que c'était en 2019.
Oui. D'un mot justement sur les frontières, elles sont de nouveau fermées à certains ressortissants, à certains pays.
Ben ça, c'est géométrie variable en fonction des données épidémiologiques. Dès qu'on voit que certains pays, certains avions, certaines destinations engendrent plus de cas que d'autres, on ferme l'aéroport, il n'y a pas de discussion.
Oui,
et sur place, il est déconseillé de partir dans certains pays aussi ?
C'est facile. Non, rien n'est déconseillé de partir. Mais ce qui sera dur, c'est de revenir.
Oui, oui, ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'il y aura la quarantaine, quoi. La quarantaine, ouais. Effectivement. Marie Holzmann, vous qui suivez beaucoup, en fait, toutes les questions, effectivement, de la Chine contemporaine, quelles sont les informations que vous avez, puisque vous les suivez énormément, et notamment sur les réapparitions de cas de Covid, là, aux alentours de Wuhan, dont on a parlé ces derniers jours.
Effectivement. En tout cas, ce qui nous frappe quand on observe la Chine, c'est que c'est très difficile d'avoir des observations et des chiffres et des informations réelles. On a des bribes d'informations, on constate des choses, c'est-à-dire que dans beaucoup de villes maintenant, les gens se promènent sans masque, que la plupart des étrangers qui vivent en Chine ont été autorisés à se promener partout en Chine. J'ai une amie qui s'est promenée vraiment littéralement partout, au Gansu, au Yunnan, partout elle était sans masque, elle était en toute sécurité. Donc c'est clair que les Chinois ont réussi, en partie du moins, à contrôler l'épidémie. Mais malgré tout, je crois qu'un virus de ce genre est pratiquement incontrôlable. Donc, de toute façon, il va continuer à réapparaître et je ne pense pas que ce ne soit que des virus importés. Parce que là, c'est un petit peu le jeu de la Chine maintenant. C'est-à-dire de dire « Ah ben oui, mais ce virus existait déjà. On l'avait vu en Inde, on l'avait vu en Italie. Donc, finalement, ce n'est pas du tout un virus chinois. Je crois que les virus de ce genre existe effectivement partout. Enfin, il y en a des plus ou moins virulents, mais de nature, la grippe est aussi un virus, un coronavirus. Bon, donc la discussion est un peu sans fin. Le problème, c'est vraiment d'où est partie cette épidémie. Et là, je crois qu'il n'y a pas de doute, elle est partie de Wuhan quand même.
C'est
à Wuhan.
Oui, Marie Holzmann, c'est pas ce que disent les autorités chinoises qui répliquent en fait aujourd'hui. Vous avez vu, alors. Alors bon, c'est peut-être de la propagande, etc. Guillaume Zeguri, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est ce qu'ils sont en train de dire actuellement. On aurait vu des cas en Italie ou ailleurs.
C'est une contre-attaque.
Bien sûr.
C'est une contre-attaque.
Oui, deux points pour rebondir sur ce que disait Marie. Déjà, il faut accréditer le fait que la Chine a réussi dans la mesure où, au quotidien, on le voit bien. Je donne trois exemples.
Oui.
Le masque, il est obligatoire dans tous les transports. Vous devez montrer votre QR code, que ce soit au cinéma ou pour aller au travail. Et dès que vous avez plus de 35 dans une clinique, vous allez dans un hôpital dédié. Et ce qu'on voit aussi, je vous parle d'un exemple, parce que ma femme est chinoise, donc on est quand même bien informé s'il y avait des choses. Et là, sa grand-mère, par exemple, qui est dans une maison de retraite à Tianjin, il y a eu une alerte. Et en Chine, dès qu'il y a une alerte, dès qu'il y a un départ de feu, un Canadair arrive. Tout le quartier est bouclé, pas de sortie pendant 15 jours, et c'est comme ça qu'ils y sont arrivés. Ils mettent des moyens énormes, et dès qu'il y a un départ de feu, le Canadair arrive, avec la puissance qu'on connaît à la Chine.
Oui, c'est ça, avec un confinement très strict, quoi. Tout est paralysé, quoi.
On ne discute pas, quoi. C'est le propre de la Chine, avec son plus et son moins. Mais le plus, c'est que quand il y a une décision qui est prise, la machine se met en marche.
Oui.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et pour retrouver Patrick Roger, Cécile de Minibus et leurs invités, rendez-vous lundi de 7h à 10h dans le Grand Matin Sud Radio. Allez, restez avec nous, on va revenir très vite avec André Bercoff et son invité, le professeur Perron, qui se sont intéressés aux nouveaux vaccins anti-Covid. À tout de suite.
Le meilleur de Sud Radio, Trina Magdine.
Bienvenue, si vous nous rejoignez dans le meilleur de Sud Radio, merci pour votre fidélité. Alors avant de retrouver André Bercoff dans tous ses états et son invité, le professeur Perron, on va s'écouter le dernier titre de Kylie Minogue, la chanteuse australienne qui signe son grand retour avec un titre dansant et résolument disco et dont le clip cumule déjà 5 millions de vues sur YouTube. Voici Magic sur Sud Radio. De Sud Radio, le tout nouveau titre de Kylie Minogue, extrait de son nouvel album Disco. Allez, on poursuit maintenant avec André Bercoff dans tous ses états. Mercredi, l'animateur recevait l'éminent professeur Perron, venu parler des différents vaccins contre le coronavirus et des conséquences catastrophiques qu'ils peuvent avoir sur notre corps.
Sud Radio, Bercoff dans tous ses états.
Et les vaccins aussi, dans tous leurs états, on en parle avec le professeur Christian Perron. Professeur Perron, au fond, qu'est-ce qu'on a alors en synthétique? Bien sûr, on va essayer de synthétiser, c'est pas simple, mais je vous fais tout à fait confiance. Ces vaccins, c'est quoi exactement les trois vaccins qui nous sont présentés alors, aujourd'hui?
Il y a trois grandes catégories de vaccins. Le premier, par exemple, le vaccin chinois, ils prennent le virus, ils l'inactivent, et puis après, ils l'injectent pour qu'on développe une immunité contre ce virus qui est tué. C'est une approche tout à fait classique qu'on fait avec beaucoup de virus. C'est un vaccin, je dirais, traditionnel. Et moi, s'il est bien toléré, je n'ai pas du tout d'état d'âme avec ce type de vaccin.
D'accord.
Après, il y a un deuxième type de vaccin où on va mettre le coronavirus à l'intérieur d'un adénovirus, c'est-à-dire un virus qui est assez courant en pathologie humaine. Mais là, on va prendre des adénovirus qui ne sont pas forcément de l'homme, puisque sinon l'homme rejetterait ses adénovirus. On va prendre un adénovirus du singe, que je n'ai pas tout suivi les détails, mais enfin, il y a quand même une manipulation génétique entre un adénovirus et un coronavirus pour vous faire développer une immunité. Donc c'est déjà plus compliqué. On a moins de certitudes sur la tolérance de ce type de vaccin, donc il faut avoir beaucoup de recul pour être sûr que ce soit une bonne idée. Oui. Et après, alors, il y a un troisième groupe dit de vaccins, mais alors là, ce n'est pas du tout des vaccins, c'est là, je dis, il y a supercherie. C'est le vaccin de Moderna, de Pfizer. C'est les non, c'est pas les vaccins, c'est les produits de thérapie génique à ARN. C'est-à-dire que c'est pas des vaccins, c'est de la thérapie génique.
Ça veut dire quoi, la thérapie génique?
Alors, on vous inocule pas du tout le virus, ni des fragments de virus.
Ah oui, d'accord, on vous dit aucun fragment.
On vous inocule un ARN, dit messager, qui va faire que vos cellules vont coder pour des morceaux du coronavirus. Alors là, on joue aux apprentis sorciers, parce que cette technique n'a jamais été, elle a été faite chez des légumes, mais n'a jamais été faite...
C'est un peu comme l'OGM,
C'est ça.
Ouais. C'est génétiquement modifié.
Organismes génétiquement modifiés, comme les tomates ou le maïs, mais ça n'a jamais été étudié même chez l'animal, vraiment en grandeur réelle. Donc l'homme va être le premier cobaye sur Terre de ce type de technique. Mm-hmm. Peut-être que ça marchera, mais on fait ça en 2 mois à la va-vite.
Ça peut marcher aussi, il n'y a pas de raison.
Ça peut marcher, mais vous vous rendez compte que ça peut... si jamais votre cellule, selon votre terrain génétique, produit beaucoup trop de particules virales, ce qui était prévu, ça peut peut-être avoir des conséquences catastrophiques dans votre corps. Et en plus, on dit mais c'est assez sûr, parce que c'est un peu technique pour ceux qui ne connaissent pas les acides nucléiques et la biologie de la cellule, mais c'est que dans nos cellules, il y a les acides nucléiques, l'ADN et l'ARN, et normalement un ARN ne remonte pas vers les chromosomes qui sont faits d'ADN, mais dans certaines situations exceptionnelles, ça peut remonter. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail de la technique.
Vous voulez dire que ce n'est pas absolument sûr?
C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent que ça peut modifier définitivement nos chromosomes, nos gènes, et éventuellement transmettre ces anomalies à nos enfants. Donc là, je dis, on joue aux apprentis sorciers. Peut-être que c'est une bonne technique d'avenir, mais il faudrait des années d'études, d'avoir une certitude sur la sécurité de ce type de technique. Là, on les balance à coups de milliards. En 2 mois, on dit tout est bon, ça marche. On n'a pas vu les résultats des études. Tout ce qu'on a vu, c'est les cours de la bourse qui ont flambé pour les industriels qui annonçaient ces bonnes nouvelles. Moi, là, je suis terrorisé, parce que je me dis, on joue aux apprentis sorciers. On va faire, et c'est les vaccins qui arrivent en priorité, c'est ceux-là qui sont prêts. On va nous faire de la thérapie génique.
C'est pas les vaccins chinois qui arrivent en priorité.
Ah non, pas du tout. Ouais. Et on va nous faire de la thérapie génique déguisée, alors que normalement, ça devrait répondre à des lois très précises, un encadrement, en nous faisant croire que c'est un vaccin. Et là, je dis, ce n'est pas possible. Il faut refuser catégoriquement ce type de vaccin, en tout cas dans l'état actuel des choses. On n'a pas suffisamment de recul.
Oui, je comprends. Il n'y a pas suffisamment de recul et c'est vraiment le problème. Écoutez, le problème est posé. Christian Perron l'a posé et il n'est pas le seul d'ailleurs. C'est vrai qu'on voudrait en savoir plus, on voudrait en savoir plus tous, parce qu'on espère tous effectivement sortir de cette espèce de cauchemar de ce virus, mais on ne sort pas à n'importe quel prix et il faut voir justement les dommages collatéraux. Et c'est vrai que ce qu'on a dit avant, le fait qu'un certain nombre de laboratoires se garantissent sur les effets secondaires est quand même préoccupant. Le fait que des gens disent oui, c'est bien, mais c'est pas bien. Vous, par exemple, alors je vous pose la question qu'on a posée à un certain nombre de gens. Vous, professeur Christian Perron, aujourd'hui, vous faites vacciner ou pas?
Sûrement pas, d'autant que j'ai fait le coronavirus bien avant le confinement.
Ah, d'accord. Donc vous êtes immunisé, vous.
Voilà. Et d'ailleurs, c'est une stratégie. Et ce qui est scandaleux, c'est qu'au lieu de développer des sérologies valables pour vérifier le pourcentage de gens dans la population qui sont immunisés, qui ne font plus jamais ce coronavirus, on se garde bien de le faire. Et les sérologies qu'on a laissées circuler, validées par des labos experts, sont très mauvaises. Mais je pense que c'est volontaire, parce que si on avait des bonnes sérologies, ça diminuerait la part de marché du vaccin, ça j'en suis convaincu. Parce que moi, je connais plein de gens qui ont fait le corona prouvé avec la perte du goût, de l'odorat. Oui. Ils n'ont toujours pas d'anticorps. Ça veut dire que les tests ne sont pas bons et que personne n'a cherché à améliorer ces tests. On met des milliards sur les vaccins, on met zéro sou sur l'amélioration de la sérologie. Ouais. Là, je dis, c'est plus de la science. On marche à l'envers.
On met la charrue des vaccins avant les bœufs de la sérologie.
Je dirais qu'on met le marché économique avant la science et la médecine.
Le meilleur de Sud Radio, Trina Macdin.
Et pour retrouver André Bercoff dans tous ses états, rendez-vous tous les jours de 12h à 14h avec ses débats passionnants et ses invités de marque. Allez, je vous propose qu'on réécoute maintenant un extrait du 10h midi de jeudi de Valérie Expert. Pour son traditionnel tour de table, l'animatrice et ses débatteurs ont rendu hommage à Valérie Giscard d'Estaing avec des anecdotes inédites sur l'ancien président disparu le 3 décembre dernier. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio.
Valéry Giscard d'Estaing, donc élu président en 74, à 48 ans, il était le plus jeune président élu. J'ai envie peut-être de commencer un petit tour de table, un souvenir, ce qu'il évoque pour vous, pour chacun d'entre vous. Patricia, commençons avec vous, Patricia Balm.
Voilà, écoutez, moi je fais partie peut-être des années Giscard, et en effet, à l'époque, bon, quand on était militant politique, il y avait les Chiraciens, les Giscardiens. Mais je raconterai plutôt une anecdote que peu de gens connaissent. Thierry Leluron est au théâtre Marigny et il fait un spectacle tous les soirs. C'est l'époque des Diamants de Bocassa, et sur scène, le chien de Thierry Leluron arrive avec un collier de diamants. Et un soir, dans l'après-midi, Thierry Leluron apprend que Valéry Giscard d'Estaing vient assister à son spectacle. Donc, il appelle tous ses copains dont je faisais partie. Et il dit « Mais Giscard, viens, c'est pas possible. » Et je lui dis « J'espère que tu vas empêcher ton chien de venir sur scène. » Il me dit « Pas du tout, je fais comme d'habitude. » Et en effet, le chien de Thierry Leluron, qui s'apparentait au labrador de Giscard, avec un collier de diamants, fait son apparition sur scène. À la fin du spectacle, nous sommes dans la loge de Thierry Leluron et qui arrive Valéry Giscard d'Estaing, qui vient le féliciter pour son spectacle. Et il a ce mot d'humour extraordinaire. « J'ai beaucoup apprécié le collier anti-puce de votre chien. » Voilà ce que je voulais raconter, parce que peu de gens étaient là ce soir-là.
Voilà, l'auditeur nous dit bonsoir madame, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. C'était effectivement aussi l'une des imitations de Leluron qui a joué un rôle. Hein. On va revenir sur la non-réélection de Valéry Giscard d'Estaing. Christian de Villeneuve, un souvenir, vous ?
Oui, moi j'ai toujours été frappé par son intelligence fulgurante. Ouais. Et son talent pédagogique. Alors, j'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois. Et une fois, il était venu au Parisien à l'occasion du vote sur la Constitution européenne. Et on avait rassemblé une dizaine de lecteurs. Et souvenez-vous, le texte était extrêmement long, extrêmement complet. Eh bien, pendant 2h30, avec une passion, avec un sens de la synthèse extraordinaire, il avait argumenté sur cette constitution, et à la fin, les lecteurs, qui étaient des gens comme vous et moi, eh bien ils sont sortis, mais ils avaient compris quelque chose et l'enjeu de l'élection. Et ça, c'est vraiment son talent pédagogique, ce sens de la formule, de la communication, m'ont toujours beaucoup impressionné.
Oui, contrairement à ce qu'on peut imaginer, parce qu'il avait un côté très aristocratique, il était comme ça, mais il était effectivement capable d'un humour et d'une assez grande facilité d'expression.
Hein. Il recherchait une certaine proximité. Alors que précisément, ce qu'on lui a beaucoup reproché, c'est son caractère un peu hautain, arrogant et distant.
Oui, absolument. Éric Revel, un souvenir ?
Oui, les souvenirs, Christian a dit beaucoup de choses. Alors moi, c'était pas une interview. Bon, le côté aristocrate du personnage, on y reviendra, parce qu'en fait, il a acheté le nom de Destin, il a essayé de se faire reconnaître...
Son père,
il a essayé de se faire reconnaître dans l'ordre des Cincinnati, des descendants de Lafayette, ça n'a jamais marché. Donc en fait, c'est un faux aristocrate, mais un vrai bourgeois, ça c'est sûr, un très grand bourgeois. Et alors, justement, moi, le souvenir que j'ai, c'est rue de Bénouville, où il avait son hôtel particulier, pour une interview chez lui. Bon, Christian, lui, il l'accueillait au Parisien. Moi, de temps en temps, j'étais... Bon, voilà. Mais là, ce jour-là, c'est chez lui. Je travaillais pour un quotidien financier qui a disparu, qui s'appelait la GFI. Et on était en pleine recherche du nom pour la future monnaie européenne, vous savez. Et Giscard avait fait une proposition. Il avait proposé de l'appeler l'écu. Évidemment, ça renvoyait à l'histoire de France. Mais surtout, ça faisait beaucoup rire parce que, vous savez, quand à l'époque, on pouvait dévaluer des monnaies ou au contraire geler le cours des monnaies. Et c'est vrai que l'écu gelé, ça sonnait un peu bizarre. Et je me souviens très bien. Alors évidemment, je n'ai pas abordé le sujet comme ça avec lui parce que, j'étais pas de taille. Mais ce qui m'avait frappé d'abord, c'est quand vous arriviez chez lui, il y avait une espèce de hall d'entrée, c'était un hôtel particulier où il y avait plein de trophées de chasse. Alors il y avait des... parce que c'était un grand chasseur, il y avait des défenses en ivoire, enfin, tout ça qui serait totalement politiquement incorrect aujourd'hui. Et où Christian a tout à fait raison, c'est que moi, ce qui m'a toujours frappé d'où j'étais, c'est-à-dire de ma modeste condition de journaliste, c'est sa fulgurance intelligence. Ouais. C'était quelqu'un d'extrêmement brillant. En fait, il avait le ton arrogant, mais il se mettait à porter des gens. C'est ça qui était incroyable. fulgurément, enfin très intelligent, et surtout qui connaissait incroyablement les dossiers. Parce que moi, quand je l'ai vu il y a 20 ans chez lui, ou je ne sais plus, il n'était plus président de la République, mais il continuait à tout suivre. Et moi, j'ai l'impression, si vous voulez, que Giscard d'Estaing, c'était plus un homme d'État qu'un homme politique.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et pour retrouver Valérie Expert et ses invités, rendez-vous lundi dans le 10h midi. Allez, on va revenir dans une poignée de minutes avec la chronique de Walter, qui a lui aussi rendu hommage à Valéry Giscard d'Estaing, mais cette fois-ci avec humour. Restez avec nous.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
De retour pour la dernière partie du meilleur de Sud Radio. Avant de retrouver la chronique de Walter, on va s'écouter le tout nouveau titre de la jolie Chaim. La chanteuse enceinte d'un petit garçon dévoile ici un morceau entraînant et fédérateur, avec pour message de ne jamais laisser tomber quoi qu'il arrive. Voici Ensemble sur Sud Radio.
Dans les doutes, tu peux compter sur moi. Tout au long de la route, on en croisera de ceux qui ne croient pas à ces choses-là. Sans doute qu'ils ne voient pas ce qu'on voit. Relève la tête, regarde au-delà de tout ce qui n'est pas ces choses-là. Et laisse-les, laisse-les, je t'en prie, ne laisse jamais tomber. Un jour le temps le rendra à ceux qui ne se sont jamais cachés. Rien n'est gagné, non, rien n'est gagné, jamais. On se ressemble, nos différences s'entendent. Rien n'est gagné, non, rien n'est gagné, jamais. On se ressemble, on va traverser le temps. Que même l'ennui se lasse, et rien sur nous ne laisse une trace. On marche ensemble, ensemble. Nous, sera plus fort que ça. On fera la paire, on ira les chercher, on ira crier s'ils veulent nous empêcher. Pour nous, je ferai n'importe quoi, pour que tu te souviennes que jamais les autres pourront te priver de ces choses-là. Et laisse-les, laisse-les, je t'en prie, ne laisse jamais tomber. Un jour le temps le rendra à ceux qui ne se sont jamais cachés. Rien n'est gagné, non, rien n'est gagné, jamais on se ressemble. Nos différences s'entendent, rien n'est gagné, non, rien n'est gagné, jamais on se ressemble. On va traverser le temps, que même l'ennui se lasse, et rien sur nous ne laisse une trace. On marche ensemble, ensemble. Quand on se ressemble, les différences s'arrêtent. Si l'on a de cesse que de sourire avec, tous les mots qui blessent pourraient disparaître, disparaître. Rien n'est gagné, non, rien n'est gagné, jamais on se ressemble. Nos différences s'entendent, rien n'est gagné, non, rien n'est gagné, jamais on se ressemble. Traverser le temps, que même l'ennui se lasse, et rien sur nous ne laisse une trace. On marche ensemble, ensemble.
Ensemble, dans le meilleur de Sud Radio, le tout nouveau titre de Chaim, qui sera, notez bien, l'invité exceptionnel du Loft Musique d'Ivan Cujus le 17 décembre prochain. Allez, on va terminer en humour avec la chronique de Walter. Jeudi, l'humoriste belge est revenu sur les décès de Maradona et de Valéry Giscard d'Estaing. Et selon lui, ils sont l'illustration que quand on a du pouvoir, on est tout de suite beaucoup plus crédible. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio.
Et bonjour Arthur.
Non,
bonjour
c'est Walter.
Walter. Ouais, mais je me trompe un peu parfois. Hein, Walter le Giscardien.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Ah oui, vous avez bien fait, vous avez vraiment bien fait, Patrick. Vous savez, j'ai toujours dit, moi, qu'il fallait dire bonjour comme Chirac et au revoir comme Giscard.
Oui.
Et vous savez, je m'étais dit, j'étais un peu embêté ce matin, je ne vais pas vous mentir, je m'étais dit la semaine dernière, moi j'aime le foot, hein, je fais ce que je veux, et je vais donc évoquer la mémoire de Maradona, et évidemment comme tout le monde j'ai appris la mort de Valéry Giscard d'Estaing, et vous savez quoi, je me suis dit, et j'espère que ça va marcher, je me suis dit ne soyons pas sinistres, parce que voilà deux hommes qui ont eu une belle vie quand même, l'air de rien, hein. Bon l'un plus long que l'autre, mais Maradona et Giscard, ils avaient l'air de rien, un petit côté hédoniste, hein, même si c'était plus évident chez l'un que chez l'autre. C'était quand même des mecs des jouisseurs. Et en regardant leur vie, j'ai pas envie de pleurer. Je suis même un petit peu jaloux, surtout de Maradona. Je veux dire, si...
Ah, Walter, on vous a perdu.
Marqué un but tout seul en partant de son camp. Je me dis, voilà. on peut faire un peu ce qu'on veut, en fait, c'est ça. Et Giscard aussi torse nu en jouant au tennis quand on est président. Quand on est au sommet, on fait ce qu'on veut, quoi. On peut marquer un but de la main, dire c'est la main de Dieu, ou faire une pause de 7 secondes avant de dire au revoir, histoire d'emmerder le suivant, de rester encore un petit moment plus à l'Élysée. Voilà, c'est... Il y a des gens comme ça, type, qui peuvent. Voilà. C'est comme, ça va peut-être vous parler, Cécile, quand on est une belle femme, hein, je ne dis pas, vous dites essentiellement des choses intelligentes, mais quand on est une belle femme, on peut dire des conneries, et les mecs vont quand même faire « Ah ouais, si, hein. » Même si ce n'est pas très intéressant. Hein, vous voyez. Alors que si c'est ton pote de 1m73 qui dit la même chose, il fait « Ah ouais, c'est ça ta gueule ». Vous voyez, c'est, ouais. C'est parce que voilà, les gens, quand il y a une belle femme qui parle, il y a des gens qui, y a les hommes qui font « Ah ouais, parce qu'ils veulent baiser ». Enfin, je veux dire, c'est comme les patrons de boîtes qui font des vannes à la machine à café, ouais. Et tout le monde rit. Et je ne dis pas ça pour vous, évidemment, hein, Patrick.
on n'a pas de machine à café.
Et je peux vous dire, si les boss en question viennent sur scène devant des gens dont la carrière dépend pas d'eux, je suis pas sûr qu'ils vont entendre rire.
Ouais, hein,
c'est
ça. Une
scène ouverte, tes patrons, voilà.
En fait, plus on a du pouvoir, plus on peut dire ce qu'on veut, quoi, c'est ça. Oui.
Exactement. Il faut être utile.
Vous
souvenez, parce qu'il y en a qui se souviennent de Sibeth Ndiaye, la dame qui était porte-parole du gouvernement, et qui a un jour dit « Je suis comme saint Thomas d'Aquin, je crois ce que je vois ».
Ah oui.
Hein, donc il avait confondu l'apôtre Thomas, qui était dans vers l'an 0, enfin on s'en fout, enfin, voilà, et Thomas d'Aquin, qui lui vivait vers l'an 1200. Macron, il n'est pas con, hein, il l'avait nommé pour choper des voix chez les femmes et chez les noirs. Parce que 1200 ans d'écart, je pense qu'il sait ce que c'est, vu que c'est la différence d'âge entre lui et sa femme.
Non, Walter, pour ceux qui ne savent pas.
Dis ce qu'on veut. Je dis ce que je veux.
Vous n'êtes pas président, vous n'êtes pas
attendez,
loin.
Mais je suis loin. Pour ceux qui ne savent pas, alors justement, Saint Thomas, c'est la chose la plus connue de la ville d'Aquin, justement, parce qu'on parlait de Saint Thomas d'Aquin. Il y a trois trucs qui sont connus à Aquin, sa cathédrale, hein, évidemment, son Saint Thomas et son lit à balles. Hein, le lit à balles d'Aquin. Voilà, voyez, moi aussi, je peux, de temps en temps.
C'est nul. Oui, bravo. Oui, pas mal.
Ce que je veux dire, c'est que quand on est au top, vous voyez, et je ne parle pas pour moi, on a une impunité. Je parle de Maradona. Hein. Le mec, il avait tous les droits. Je veux dire, quand tu sais marquer des buts comme ça, tout seul, le truc, t'as tous les droits, tu peux draguer en faisant des proutes. Tu peux dire ce que tu... Je veux dire, t'as même pas besoin, tu vois. Parce que même les gens qui connaissent rien au foot, ils connaissent Maradona.
C'est
comme les gens qui connaissent rien à la pédophilie, ils connaissent Marc Dutroux. Vous voyez, t'es au sommet de ton art. Je veux dire, non, mais je dis ça parce que... Il y a des gens qui disent, ouais, moi je connais rien, le foot, même la règle du hors-jeu. Alors pour ceux qui disent ça, je fais une petite parenthèse, pour ceux qui disent ça, je comprends rien à la règle du hors-jeu. Si j'étais vous, je ne m'en vanterais pas. Hein, parce que, encore une fois, moi je fais ce que je veux, je suis allé voir des matchs au stade, et je peux vous dire que tous les mecs qui comprennent le hors-jeu n'ont pas inventé l'eau de Javel. Ils n'ont même pas tous 32 dents, hein, même à plusieurs. En fait, pour comprendre la règle du hors-jeu, c'est simple, il faut savoir ce que c'est que deux lignes parallèles. Il faut comprendre deux lignes parallèles.
Ouais.
Parallèle. T'as des gens qui ont le droit de pas savoir ce que c'est que la règle du hors-jeu. Par exemple, Stevie Wonder. Wonder, lui, on peut comprendre parce que expliquer par deux lignes parallèles, ça doit être Gilbert Montagné, c'est difficile de l'expliquer, tu vois. mais pour les autres, il faut comprendre. Bref, qu'est-ce que je voulais dire.
Oui.
C'est que j'ai été évidemment un petit peu perturbé par la mort de Giscard. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'il ne faut pas être sinistre? Parce que vous savez quoi, Giscard d'Estaing, comme Maradona, même mort, il bande encore. Parce qu'il a inspiré une chanson intitulée, ça ne s'invente pas, Aimons-nous vivants. Vous voyez la chanson Aimons-nous vivants,
oui,
Cécile Aimons-nous vivants. N'attendons pas que l'amour nous trouve du talent. Voilà. Et le type qui a chanté cette chanson a pris comme pseudonyme les deux prénoms des candidats de l'élection présidentielle en 1974 et en 1981.
Oui, François Valéry.
François Valéry. Donc voilà, Et donc j'ai envie de dire.
Le cul entre deux chaises, c'est ce qu'on dit.
Voilà. Monsieur le Président. Génie du football, paix à vos âmes, messieurs, et célébrons la vie plutôt que pleurer. Parce que dans ces temps difficiles, où le mal rôde et frappe dans le monde, je souhaite que la Providence veille sur la France, pour son bonheur, pour son bien et pour sa grandeur.
Et c'est les derniers mots.
Au revoir.
Au revoir, Walter. Ce sont les derniers mots.
C'est formidable. Hein.
Les derniers mots de Valéry Giscard d'Estaing.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et l'humoriste Walter vous donne rendez-vous tous les jeudis à 8h20 dans le Grand Matin Sud Radio avec Patrick Roger et Cécile de Ménibus. Merci à tous d'avoir été avec nous dans le meilleur de Sud Radio. J'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Excellent week-end à tous à l'écoute de Sud Radio.